Alors bonjour, je vais vous présenter Totem et Tabou de Sigmund Freud. Donc Freud est un psychanalyste autrichien du début du XXe siècle, qui est réputé pour être un peu le père fondateur de la psychanalyse. En 1900, il va publier L'interprétation des rêves, qui est un ouvrage assez révolutionnaire dans le milieu, car c'est le premier livre où est présenté concrètement tout le système psychique de l'homme. Et qui a d'ailleurs suscité une grande polémique. Donc Totem et Tabou est paru en 1913, et c'est un peu un croisement entre la psychanalyse et l'ethnologie. Donc à l'époque, Freud continue à lutter pour convaincre le plus de monde de la réalité de sa théorie. Donc même en 1913, il a ce ton très didactique et il s'appuie sur les travaux d'autres chercheurs comme Darwin ou Fraser. Donc dans un premier temps, Freud étudie des peuples qu'on considérait comme primitifs en Australie, et on remarque tout de suite que beaucoup de ces tribus possèdent des totems. Donc un totem, c'est quoi? Un totem, c'est la représentation symbolique d'un esprit protecteur, comme un animal ou une plante. Donc les tribus sont décomposées en plusieurs clans. Et chaque individu de la tribu possède un unique totem référent. Ils s'organisent par affinité totémique entre eux dans de mêmes groupes sociaux qui sont les clans. Évidemment, on ne mange pas son animal ou sa plante totem, et les rapports sexuels entre les individus d'un même totem sont prohibés. Donc, on remarque tout de suite que la parenté totémique est largement supérieure à la parenté sanguine. Par exemple, un homme va considérer comme mère toutes les femmes d'à peu près l'âge de sa mère biologique qui appartiennent à son même totem. Et comme frère et sœur, tous les individus d'à peu près sa génération qui ont le même totem. Et on remarque qu'il y a une très très grande organisation, vraiment surdéveloppée, pour éviter l'inceste totémique. Donc ça va être beaucoup de coutumes et par exemple des évitements entre la mère et le fils à partir de la majorité sexuelle du fils, ou entre le frère et la sœur. Et c'est assez intéressant que ce soit spécialement l'inceste qui soit au centre de l'attention, malgré le fait qu'ils vivent dans des conditions extrêmement basiques, et cet élément est important malgré tout. Alors, après avoir développé le totem et l'organisation sociale qui s'en découle, Freud s'intéresse aux tabous dans ses tribus. Donc un tabou, ça va être quelque chose de sacré et de dangereux, qui peut être un homme, un animal ou un objet. L'origine du tabou, c'est une croyance démonique primaire, comme un esprit qui possède l'objet ou la personne concernée. Il fait l'analogie entre une personne et un objet tabou, en le comparant à un corps chargé d'électricité. Car le tabou se transmet notamment par le toucher, et il faut qu'il y ait un peu une cohérence entre sa propre sacralité et la sacralité, le tabou de la personne ou l'objet en face, pour pouvoir le toucher, y faire face, et non pas mourir comme ce qu'il croyait. Il y avait beaucoup de croyances là-dessus, beaucoup de peur. Donc, par exemple, l'homme tabou par excellence, ça va être le roi ou le prêtre ou même le roi-prêtre. Dans ces tribus, ils fusionnent deux en un. Il était hors de question qu'un individu lambda touche physiquement le roi-prêtre. Par exemple, il y a des cas où, des légendes un peu urbaines de l'époque, où un roi avait fait tomber sa pipe. Et dans la rue, et des individus, des habitants l'avaient utilisé, et en apprenant que ça appartenait au roi, ils étaient quasiment tous morts après, enfin c'était assez catastrophique. Donc la source, selon Freud, de ça, c'est l'ambivalence de l'homme, l'ambivalence des sentiments de l'homme. Donc c'est un processus dans lequel l'homme va vouloir, dans le cas général, accomplir une action, mais cette action est interdite. Il est interdit de la faire par la crainte qu'elle inspire. Donc à cause de cette crainte, il va refouler cette envie dans l'inconscient. Donc, de plus, pour les primitifs, les premiers interdits concernant le meurtre et le mariage par le biais du totem peuvent se référer chez l'homme moderne au meurtre et à l'inceste tout court. Dans quel cas, d'après l'ambivalence des sentiments, on sait qu'on ne doit pas tuer ni avoir une relation incestueuse avec quelqu'un de sa famille, mais au fond de nous, on a des pulsions primaires allant à l'encontre de cela, et qu'on a refoulé très tôt dans l'enfance. Il démontre un peu ça de façon très explicite dans la relation avec le roi chez les tribus primitives, où à la fois le roi est quelque chose de très sacré, de vraiment en haut de l'échelle sociale, donc tabou vraiment réel. Et c'est aussi l'être suprême qui est responsable des récoltes et de la santé du peuple, mais en même temps, chez les individus, chez les habitants, il se développe ce qu'il appelle une hostilité latente, où au final, en étant trop sacré, le roi-prêtre devient emprisonné. Par exemple, chez les Mikado au Japon, ils sont si sacrés que leurs cheveux et leurs ongles sont considérés comme trop purs pour être coupés, et il se fait porter par des serviteurs parce qu'il est trop pur pour toucher le sol, et il doit passer ses journées le regard fixe assis sur son trône, sinon on va le considérer comme responsable des catastrophes qui peuvent arriver. Même chez certaines tribus, l'absurdité va si loin que personne ne veut devenir roi si c'est pour subir cela, quitte à ce que ces tribus prennent n'importe quel étranger pour le désigner héritier tout de suite. Donc ça montre à quel point c'est assez étrange cette ambivalence. Voilà. Pour finir rapidement, Freud tire deux grosses conclusions assez ambitieuses de ses observations. La première, c'est qu'il va distinguer trois systèmes intellectuels successifs de l'humanité. Donc, dans une société, d'abord, il va y avoir un système animiste, dont ça va être basé sur la présence psychique de tout l'environnement autour de nous, c'est-à-dire qu'un arbre ou une pierre va avoir une sorte d'âme animique, et donc ça va se caractériser par la croyance en des esprits et des choses comme ça. Donc le premier, c'est le système animiste. Le second, c'est le système religieux, donc basé sur une puissance tierce, et le dernier, ça va être le système scientifique, donc basé sur ses propres connaissances concrètes, personnelles. Il prend comme exemple le fait que les hommes nécessitent la pluie pour une récolte. Donc par exemple, pour faire tomber la pluie, selon une société animiste, ça va se passer par l'action vraiment soi-même de répliquer une action, de simuler une action comme lancer de l'eau sur les récoltes en espérant que, par miracle, entre guillemets, l'eau tombe finalement sur les récoltes. Ensuite, l'étape d'après, selon le système religieux, ça va passer par une prière envers un saint pour que la pluie tombe, donc passer par un tiers afin d'espérer la pluie. Au final, d'après un système scientifique, ça va être les études de l'atmosphère, de façon très concrète, très scientifique, comme on le connaît tous. Et il compare ça avec la vie psychique. Par exemple, l'évolution d'un enfant, la vie psychique d'un individu unique. La première étape, le premier stade, va être un stade de narcissisme, donc basé sur vraiment tout est comparé à soi-même et on est le seul. La seule personne concernée par le sujet, donc qui peut être associée à l'animisme. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, en jetant l'eau, en faisant notre petite action très personnelle, voilà, très prétentieuse, de lancer de l'eau en espérant que la pluie tombe, qui peut être associée à ça. Le second stade de l'enfance va être la fixation de la libido sur ses parents. Donc tout de suite, ça nous rappelle le complexe d'Œdipe, où l'enfant tue le père et épouse sa mère, qui sont les désirs primitifs et aussi la potentielle source de toutes les névroses si elles sont maltraitées, qui peut être associé au système religieux, donc passé par la puissance d'un tiers, donc par ses parents. Et le dernier stade va être l'état de maturité de l'homme, où ça va passer par le renoncement de la recherche du plaisir et l'acceptation des exigences de la réalité. Donc une étude objective de ce qui se passe, des conditions atmosphériques pour la pluie, pour y trouver des hypothèses et des solutions. Le deuxième point de conclusion de Freud est encore plus ambitieux, car d'après donc l'observation d'horde primitive de Darwin, il reprend ces observations-là en généralisant aux premières tribus de l'humanité. Donc, il va y avoir un mâle alpha dominant, donc le père, dans la tribu qui va avoir une supériorité sur ses fils et qui va avoir le monopole de toutes les femmes de la tribu. Donc, les fils doivent partir de la tribu, donc faire de l'exogamie, pour se construire eux-mêmes et pour avoir leur propre famille, etc. Donc, ce qui est une potentielle explication de l'exogamie. Et dans le récit, un jour, les fils se liguèrent et décidèrent de tuer le père et de le manger dans un repas totémique pour s'accaparer de son pouvoir, pour avoir sa puissance. Et tout de suite après ça, ils vont avoir une énorme culpabilité, vraiment une culpabilité fondatrice pour la suite, qui est très importante, après laquelle ils décidèrent d'établir des règles pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et s'entretuer entre frères, ce qui serait vraiment très embêtant, puisque il n'y aurait aucun survivant, quoi. Et donc les règles vont s'appliquer aux deux tabous principaux, qui sont l'interdiction de tuer le totem, donc qui s'associe au meurtre et au parricide, et l'interdiction de relations sexuelles avec les femmes du totem, qui correspond à l'inceste. Donc ces deux règles-là vont être à l'origine des sociétés, selon Freud. Sans ça, une société ne peut pas tenir, c'est vraiment la base, quoi. Bien sûr, il y a une très forte association avec sa propre théorie de la psychanalyse autour du complexe d'Œdipe, où Œdipe tue son père et pousse sa mère. Ici, il est question des mêmes mécanismes fondateurs pour qu'une société puisse exister et persister. Donc ce qui est assez très courageux de sa part, c'est de relier les comportements psychanalytiques originels de l'homme à la construction des premières sociétés, donc en soi à l'histoire de l'humanité, qui est un parallèle très important. Donc vraiment pour synthétiser tout ça, Totem et Tabou, c'est grâce à ça, Freud fait un constat hypothétique et très ambitieux, qui est de comparer la vie psychique d'un individu à l'histoire de l'humanité et de l'évolution des sociétés, notamment à travers le complexe d'Œdipe qui va être fondateur à la fois pour la vie psychique d'un homme et à la fois pour les premières sociétés. Donc c'est pour l'époque, enfin c'est une théorie extrêmement révolutionnaire comme tout ce que Freud a pu proposer dans ses travaux.